Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant d'adultère. » Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de l'appliquer de ses femmes. Et toi, que dis-tu? Il parvenait ici pour le reste de l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa de leur dit. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre. Il se baissait de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul, avec la main toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, ben, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, « Personne ne sait. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te connais pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui d'entre vous est sans péché, qui lui jette la première pierre. Nous connaissons très bien ces paroles-là, elles sont populaires, elles sont bien connues, elles sont parmi les plus connues d'ailleurs dans l'Évangile, et on les retrouve dans plusieurs langues par le fait, elles jouent même le rôle parfois de proverbe. Et il est intéressant aujourd'hui de nous arrêter sur ces paroles-là et de voir dans quel contexte elles ont été prononcées par notre Seigneur. Le contexte, c'est ce que nous venons d'entendre, une des plus belles pages de l'Évangile. En fait, il s'agit de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qui se passe? Regardez la loi de Moïse au chapitre 24, au chapitre 22 du livre du Deutéronome. Il dit, si une personne est prise en flagrant délit d'adultère avec une autre, eh bien on prend les deux personnes, on les juge et les personnes sont lapidées. La première injustice, c'est qu'on arrête cette femme-là, on laisse tomber l'homme. On ne voit pas l'homme dans la photo, dans la manière de présenter les choses. Deuxièmement, on traîne cette femme-là, de là où elle était prise, on la traîne dans les rues et on va jusqu'au temple où Jésus était en train d'enseigner. On l'humilie. Arrivée sur place, elle est comme au milieu, au centre. Et comme Jésus prêchait, il prêchait devant une foule. Alors, c'est toute la foule, toutes les personnes qui formaient la foule qui ont le regard fixé sur cette femme-là. Alors, elle est couchée par terre, prostrée, humiliée, en pleurs, dans la panique de la mort, parce que quelque chose de terrible va lui arriver. Regardez l'attitude de notre Seigneur. Alors qu'on lui présente, la femme, on dit, la loi de Moïse dit qu'il faut qu'elle soit lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis? Devant tout le monde qui enseignait là, parce qu'il enseignait, comme je l'ai dit, dans le temple. Alors le Seigneur ne répond pas. Il est penché et il trace des lignes sur le sol. Et il les fait continuellement. Les autres se posent la question, mais comment ça se fait qu'il ne répond pas? Ils vont insister. Mais moi j'aime beaucoup l'explication que donne François Mauriac, cet écrivain français qui est décédé en 1970 et qui est prix Nobel de la paix en littérature. Alors François Mauriac, qui a écrit un livre sur Jésus-Christ, qui a été publié en 1936, il dit ceci de cette scène-là. Il dit « Notre Seigneur est penché, il écrit sur le sol parce qu'il ne veut pas embarrasser la femme. » parce qu'il ne veut pas humilier davantage la femme, parce qu'il veut inviter les personnes qu'il accuse à aller en profondeur d'eux-mêmes pour se juger eux-mêmes. Alors il garde silence, il ne lève pas les yeux sur la femme. Et il continue, François Mauriac, il dit en fait, dans notre vie à nous, il y a des moments où nous sommes dans la situation de la femme, c'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on a faites dans la vie et qu'on ne voudrait pas que les gens les sachent, on ne voudrait pas que les gens nous regardent, on ne voudrait pas se faire voir, alors on voudrait vraiment se cacher. Alors cette femme-là vivait ce moment-là et Jésus a compris, il n'a pas osé lever son regard pour la défoncer davantage, pour l'écraser davantage. Alors les accusateurs continuent et ils continuent. Finalement, c'est alors ce moment-là que Jésus va se lever et va prononcer ces paroles magnifiques. Hein, et il dit, écoutez, que, d'ailleurs quelqu'un me disait dans la messe de 9h que ce sont des paroles de sagesse qui ne peuvent venir qu'un cœur divin. Il regarde ces gens-là et dit, écoutez, si parmi vous, il y a vraiment un homme pur, un homme parfait, eh bien, qui commence par jeter la première pierre, celui qui est sans péché, qui commence par lapider la femme. Alors, personne n'ose le faire, dit le texte. En commençant par le plus âgé, les accusateurs se retirent, dit le texte. Et encore une fois, j'aime l'explication de François Mauriac. Il dit, voyez-vous, notre Seigneur Jésus avait la capacité de rejoindre les gens. Il avait la lucidité de lire dans le cœur des personnes. Il pouvait aller toucher le cœur des gens avec ses paroles. Alors dans sa lumière, dans son intérieur, il a lu ce que voulaient exactement les scribes et les pharisiens. Alors il prononce ces paroles-là. Ces paroles vont toucher le cœur des accusateurs, vont remuer leur conscience, vont remuer leurs entrailles, de telle sorte que finalement, ils sont mis à confronter leur propre conscience, leur propre intérieur. Ils découvrent eux-mêmes leurs limites, leurs péchés, et ils n'osent plus attaquer la femme et lapider la femme. Alors, un à un, ils se retirent. Voyez-vous ? Alors, en fait, ce qu'il faudrait se dire, c'est qu'on regarde le Seigneur Jésus, on voit qu'il est en fait devant un dilemme. Lui qui prêche dans le temple, lui qui prêche le peuple dans le temple, lui qui doit être défenseur de la loi. Voilà qu'on lui présente un cas de la loi justement. Est-ce qu'il faut suivre la loi ou il ne faut pas la suivre? Devant les gens qui sont là, lui qui est maître. L'autre chose, lui qui prêche toujours la miséricorde, qui est toujours avec les pécheurs, qui défend toujours les plus petits. Est-ce qu'il faut pardonner à cette femme-là devant tout le monde? Est-ce qu'il faut qu'on la lapide? Parce que s'il accepte, il sera en contradiction avec son message de miséricorde. Que faire? Alors c'est alors que viennent ces paroles magnifiques que nous avons dites déjà à deux reprises. Maintenant, quand on réfléchit, on voit notre Seigneur devant cette femme-là. Il dit, écoute, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Il dit, il n'y a personne, Seigneur. Personne ne me condamne. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Lève-toi. Va, désormais ne pêche plus. Est-ce que le Seigneur cautionne l'adultère? Est-ce que le Seigneur cautionne le péché? Non. Il dit, va, désormais ne pêche plus. Mais le Seigneur libère la femme. Le Seigneur fait de sorte que le meilleur de la femme puisse ressortir davantage et qu'elle aille en paix pour devenir encore une meilleure personne. Le Seigneur ne se concentre pas, ne réduit pas la femme à l'acte posé. Le péché que nous faisons, dit le Seigneur, en fait, ce qu'il veut nous dire, le péché que nous faisons, eh bien, ça ne réduit pas notre personnalité. Nous sommes des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'acte mauvais que nous posons ne peut jamais effacer ce sceau qu'on a reçu de Dieu, qui fait qu'on le représente, qui fait de nous des statues, si vous voulez, de Dieu, de représentants de Dieu. Alors, ce que le Seigneur fait, il cherche ce qui est de meilleur dans la femme et il la relève, il la donne le courage l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Son regard sur la femme, ce n'est pas un regard accusateur, ce n'est pas un regard qui humilie, ce n'est pas un regard qui dénude, mais c'est un regard qui pardonne, qui relève et qui relance, qui ouvre la porte, qui donne l'occasion de recommencer encore une fois hein, une nouvelle vie. C'est un regard en fait qui supporte la femme. Voilà la situation de notre Seigneur, voilà comment il pardonne nos péchés, comment il nous relève. C'est la même chose quand on arrive à la confesse. La confesse, c'est ce qui se passe en fait. Moi, je dis parfois, quand les gens se confessent, dès que tu sors de la confession, tu es immaculé. Tu as été nettoyé, tu es pur, tu es immaculé parce que le Seigneur t'a pardonné. Va, tu es pur, désormais ne pêche plus. Maintenant, ce texte, c'est vrai, il parle des cas d'adultère, il parle des accusateurs, et il parle aussi de nous, en quelque sorte. Regardez comment le Seigneur, il n'accuse pas la femme adultère et il ne condamne pas non plus les accusateurs. Il n'y a aucune phrase de lui qui condamne les accusateurs. Il leur remet devant leur conscience pour leur permettre de vivre un examen de conscience qui pourrait les conduire à un changement aussi dans leur vie, à un changement de regard et voir comment accueillir les autres, revenir en eux-mêmes, reconnaître leurs propres limites, reconnaître leurs propres péchés. Voilà comment le Seigneur ne condamne personne. Il invite tout le monde à aller de l'avant et à ne plus pécher. Maintenant, quand nous regardons nous-mêmes, nous pouvons être comme les scribes et les accusateurs. Voyez-vous, quand vous allez dans des grandes réceptions, et puis dans des grands rassemblements, dans des congrès, généralement on donne des étiquettes avec nos noms. Comme ça on sait, ben, c'est qui la personne. Mais le nom ça dit qui tu es. Le nom renferme ta personnalité, toute ta personne. Maintenant nous autres là, nous faisons comme les accusateurs, comme les scribes et les pharisiens. Nous donnons des étiquettes aux gens. Mais sur l'étiquette, à la place de mettre le nom de la personne, nous mettons leur péché. Alors, nous limitons les personnes. La personne, c'est le péché que la personne a fait. Alors, c'est comme ça que les accusateurs ont fait. La pécheresse, là, tout ce qui pouvait être, elle est pécheresse et tout. Le bon, il n'y a rien en elle que ce péché-là qu'on a vu ce jour-là. Alors nous autres là, quand nous regardons les personnes, nous donnons les étiquettes, eh bien cette personne-là n'est pas croyante, cette autre-là ne prie pas. Cette personne-là est légère. Cette femme a trahi son mari, ce mari-là a trahi sa femme. Cet homme-là a toujours des mots déplacés. Et c'est comme ça que nous mettons les gens dans les tiroirs. Pas moyen de s'en sortir. Mais ce que le Seigneur nous propose aujourd'hui, qu'on ne donne pas ces étiquettes-là aux gens, qui est toujours la possibilité, qui est toujours une porte de sortie, qu'on reconnaisse dans l'être humain qu'il y a toujours du bon dans chaque être humain et qu'on exploite le bon dans l'être humain pour lui donner l'occasion d'avancer, l'occasion de progresser, l'occasion de s'appuyer sur le bien comme un tremplin pour se lancer dans la vie. Mais ce n'est pas tout. Nous avons des personnes dans notre vie que nous avons exclu, vous et moi, nous avons des personnes dans notre vie que nous avons exclu de notre bienfaisance, de notre bienveillance, de notre bonté. Eh bien, ce sont les personnes qui nous ont blessés dans la vie. Ce sont les personnes qui nous ont fait du mal. Ce sont des personnes dont on ne veut pas entendre parler. On ne veut même pas citer leur nom. Ils sont exclus de notre cœur. Ils sont exclus de notre existence. Nous ne voulons pas parler du pardon. Et ces personnes-là, nous sommes capables d'aller à Jésus pour dire « Il est pécheur ». Et les pécheresses, comme l'ont fait les accusateurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à ouvrir nos cœurs au pardon, à ouvrir nos cœurs sur le pardon, pour libérer les personnes, libérer les gens de notre cœur, pour que les gens puissent avancer, pour que les gens puissent aller de l'avant. C'est l'appel que nous recevons de notre Seigneur aujourd'hui, dans ce temps de carême. Toujours dans cette même situation, je me rappelle des paroles qu'a prononcées le pape Benoît XVI dans ce cadre-là. Lui, il dit, faisons comme Jésus, ne condamnons personne, ne jugeons personne. Soyons intransigeants envers le péché, soyons indulgents envers les personnes. Et ce que Dieu fait continuellement avec nous. Pour finir, dans ce temps de carême, alors que nous sommes invités à un renouvellement, changeons notre regard. Renouvelons notre regard, la manière de voir les gens. Il ne faut pas réduire les gens aux actes mauvais. Quand on regarde les personnes, qu'on puisse découvrir leur richesse. Qu'on demande au Seigneur de purifier notre regard intérieur. Que chaque fois que nous levons les yeux sur les autres, eh bien, qu'on voit le bien, qu'on relève les personnes. Que notre regard soit un regard qui relève, pas un regard qui écrase, qui dénude, qui piétine et qui fait du mal aux autres. Que notre regard soit toujours un regard promoteur, un regard qui libère, un regard qui ouvre la voie. Que le mal sorte de nous, que ce soit pas un regard rempli de mal, un regard qui sort d'un cœur dur. Que le Seigneur nous donne à vous et à moi d'enlever la dureté de notre cœur. Qu'on ait un cœur doux, un cœur patient, un cœur qui relève, qui aide. Pour conclure, moi je me servirai simplement de la première à la deuxième lecture. La première lecture parle d'un renouveau. Le Seigneur va faire du neuf. Il va commencer un monde nouveau. Et Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que dans le temps, il avait fait des erreurs. Il était pécheur. Mais aujourd'hui, il a oublié le passé et il regarde de l'avant et il veut aller avec notre Seigneur Jésus pour vivre cette vie de transformation. Mes amis, vous et moi, nous sommes des pécheurs, nous avons des péchés. Ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est que ne nous crispons pas sur le passé. Le péché que nous avons commis, le mal que nous avons fait, la vie passée, la vie intérieure, laissons-la, on va l'enterrer. Regardons de l'avant. Allons vers le Seigneur Jésus qui nous attend à Pâques. Lui qui veut entrer en communion avec nous pour laisser mourir notre passé, donner la nouvelle vie à notre futur et aller toujours de l'avant pour un renouvellement qui ne finit pas, pour devenir des meilleures personnes. Donc, que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne purifier notre regard pour que tout ce que nous regardons autour de nous, tout ce que nous voyons autour de nous, que ce soit toujours avec un regard neuf, un regard qui aime, un regard qui renouvelle. Amen.